Chapitre 54. Vera avait déjà connu ce genre de réveil, de ceux qui laissent un goût de plâtre au fond de la gorge. C'était une sensation que l'organisme ne pouvait oublier. Elle était installée dans son fauteuil, sur la table face à elle, à hauteur de poitrine, son jeu d'échecs, chaque camp paré à l'attaque. À gauche du plateau en bois, un roman à la couverture grise et verte, le manuscrit inachevé. Caleb Traskman était assis sur une chaise, du côté des pièces blanches. Il avait joué son premier coup et l'observait comme on scrute un animal dans une cage. Ce regard la transperça de part en part et la ramena à ses journées les plus sombres. Elle revit subitement, de manière désordonnée, la geôle où il l'avait séquestrée, le lit en fer, les repas qui arrivaient par la fente de la porte, le labyrinthe dont elle avait eu toutes les peines du monde à s'échapper. Elle se revit également courir sur la plage, grimper dans un camping-car, dormir sous un pont. Et puis ses peintures. Zaz, Lizine, ce corps martyrisé retrouvé dans une cave sordide. Elle perçut des voix, des exclamations, des odeurs dont elle ne saisissait pas le sens, le tout s'écrasant comme un train à grande vitesse sur le mur de son esprit. C'était lui. Le monstre qu'il avait retenu prisonnière pendant des années. Le bourreau qui l'avait contrainte à résoudre des énigmes des jours durant, ce qui expliquait qu'elle continuait à dessiner ses foutus dédales, même après avoir oublié, oublié qu'elle avait oublié. Il était Caleb Traskman, l'homme à la tête de taureau, le Minotaure, son Minotaure. Son visage différait cependant de celui qui était remonté à la surface de sa mémoire. Plus carré, plus sec, les pommettes plus hautes, les traits moins tirés. Était-ce parce qu'elle le voyait pour la première fois sans son épaisse barbe de légionnaire? La forme de son nez avait également changé, tout comme la couleur de ses cheveux, passée du gris au brun foncé. Il paraissait beaucoup plus jeune que dans ses souvenirs. Ça n'avait aucun sens. « Tu es morte et je suis mort », expliqua-t-il paisiblement. Nous sommes deux cadavres qui disputons notre ultime partie d'échecs, dans cette forêt qui pourrait être autant le paradis que l'enfer. Il n'y aura pas d'autre affrontement. C'est ici que notre chemin s'achève. Elle s'appelait Julie. Julie Moscato. On l'avait arrachée à sa famille alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle faisait tranquillement du vélo dans la montagne. 17 ans. Aujourd'hui, elle en avait 30. « C'est donc dans ce trou que tu t'es réfugié, » fit Caleb Traskman. « Je suis sur tes traces depuis le soir où tu as fait la rencontre de Théobald. Il a survécu, tu sais, et je peux t'assurer que lui aussi il t'a cherché, en sortant de ses 4 mois d'hospitalisation au service des grands brûlés à souffrir le martyre. » Il cala un poing sous son menton, dans la position du penseur. « Après ton départ, j'ai fouillé de fond en comble la maison du Ménil. J'ai réussi à retrouver ton adresse à Rouen. Mais il n'y avait rien dans cet appartement. Pas de piste. Tu t'étais volatilisé. Grâce à mes relations, j'ai pu récupérer un certain nombre de tes contacts. J'ai fait le tour. J'ai posé des questions à tout le monde. Ça m'a pris une éternité. Jusqu'à ce que je tombe sur ce type de Mont-Saint-Aignan, un hypersensible, qui m'a dit que tu t'étais mise en relation avec lui et que tu travaillais sur le sujet de l'électrosensibilité. Il m'a expliqué pour le hameau, l'association Zéro Onde. J'ai tenté ma chance au cas où, et bingo. Une certaine Vera Claythorne, psychiatre à Metz, avait débarqué en avril dernier. Ça correspondait exactement au moment où tu nous avais échappé. Une lueur inquiétante faisait briller ses yeux. Il poussa dans sa direction un article qui datait de 2017. Un gros titre annonçait « Caleb Traskman, le célèbre auteur de romans policiers, s'est suicidé. » Quand tu t'es jeté dans l'Oti cette nuit-là, ça a été le pire jour de ma vie. J'ai cru que je t'avais définitivement perdu, que tout était fini. Chaque matin, je parcourais la baie, je scrutais les informations locales, la peur au ventre. Ton corps avait sûrement dérivé vers Fort Mahon ou plus loin encore. Il n'empêche que les marées auraient dû le ramener sur la plage. Ça a duré des semaines, des semaines à angoisser. Puis je me suis dit que peut-être tu avais réussi à t'en sortir, que tu étais vivante quelque part. Mais si tel était le cas, pourquoi les flics n'avaient-ils pas déjà enfoncé ma porte? Pourquoi ton histoire ne faisait-elle pas la une de tous les médias? 8 ans que tu avais disparu, ça méritait bien un peu de bruit, non? Je n'y comprenais rien. Julie se concentrait. Des images continuaient d'affluer. Elle avait roulé dans les courants, avalé de l'eau salée et de la vase. L'instant d'après, elle se voyait errer au milieu des grandes étendues de la baie. T'avais survécu, mais t'avais tout oublié. C'était ça en réalité la solution. Et c'est pour ça que... Il agita la main et secoua la tête. Attends, attends, on va y revenir. On doit faire les choses dans l'ordre. Il pointa l'article de son index. Il faut que je te parle de ma propre résurrection, de mon fils, de mon livre posthume, le manuscrit inachevé. Mais vas-y, joue ton coup. Joue-le et applique-toi. Je vois que tu as continué à disputer des parties d'échecs, même dans ce trou. C'est bien, Julie. C'est très bien. Vas-y. La jeune femme avait l'impression de marcher au bord d'un gouffre. La folie était partout. En elle, face à elle, et dans chaque recoin de ce fichu chalet. C'est ici que notre chemin s'achève. Ils ne comptaient pas repartir. Ils allaient mourir ensemble au cœur de cette forêt. Instinctivement, elle poussa un pion. Traskman eut un sourire. La défense, Pirk. Ça a toujours été ton ouverture préférée. Un clin d'œil à l'immortel de Kasparov. J'y fais d'ailleurs référence dans le manuscrit inachevé. Il poussa à son tour son pion en D4. Tu te rappelles ce que tu m'as dit la nuit où tu t'es échappé? L'histoire du jumeau qui prend la place de son frère. Je l'ai fait, Julie. Je l'ai intégré à l'intrigue que j'étais en train d'écrire. Et je suis allé au bout du truc, parce que pour que ça fonctionne vraiment, pour que le secret en reste un, il fallait absolument que celui dont on usurpait l'identité meure. Dans la fiction, comme dans la réalité. Elle répliqua avec son cavalier d'un geste mécanique, cherchant une solution pour s'en sortir. Il bougea le sien dans la foulée. C'était l'occasion de réaliser le crime le plus parfait qui soit, celui où on est soi-même la victime, puis de renaître ailleurs. J'ai tout préparé. Ça a mûri longuement. J'avais un plan incroyable. Après avoir terminé mon roman, qui mettait largement en scène ta disparition, mon frère jumeau et ma fausse mort, une sorte de manifeste, si tu veux, j'ai organisé mon suicide. J'ai mis la quasi-totalité de mon tapuscrit dans le coffre-fort, comme je le faisais systématiquement, et j'ai laissé le dernier chapitre sur mon bureau. C'était ma manière de dire au revoir. Je savais bien que mon fils allait trouver l'ensemble et le publier. L'ultime œuvre de Caleb Traskman, c'était la garantie de faire exploser les ventes. Au fond de son ventre, la haine brûlait aussi fort que le feu devant elle. Cet homme l'avait détruite, brisée. Elle lui devait ses années d'errance, sa vie de misère ici. Elle ne lui permettrait pas de recommencer. Elle avança un pion en essayant de contenir le tremblement de ses doigts. Elle venait de se souvenir que le tisonnier était normalement toujours caché sous le coussin de son fauteuil. Entre parenthèses, le destin de ce livre est très curieux. Parce que ma maison a été cambriolée juste après ma mort, continua-t-il, et les pages que j'avais disposées en évidence ont été dérobées avant que mon fils ne mette la main dessus. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec un bouquin dans mon coffre, mais sans la fin. Un thriller sans dénouement, tu imagines? Mon fils, malgré sa médiocrité, a dû l'inventer lui-même. D'où le titre, Le manuscrit inachevé. Je dois avouer que c'était plutôt bien vu. Il joua avec nonchalance. Elle enchaîna, fit retomber, avec beaucoup de naturel, son bras entre ses jambes. Il ne fallait pas éveiller les soupçons. Ensuite, elle glissa sa paume sous le coussin et sentit avec soulagement le métal froid. Quand tout était enfin prêt pour ma disparition, j'ai demandé à mon jumeau, que j'avais réussi à museler quelques mois en lui envoyant de l'argent, de revenir me voir à la villa. J'allais devenir lui. Prendre sa place. Je l'ai tué dans la pièce insonorisée où je t'avais enfermé. Une balle en pleine tête. J'ai échangé nos vêtements, nos papiers, exactement comme c'est relaté dans le manuscrit inachevé. Il se pencha sur l'échiquier, étudia le plateau. Julie était partie dans une variante qu'il semblait ne pas connaître. Il toucha le bouchon qui faisait office de fou. Y renonça finalement. Opta pour son second cavalier. J'ai porté son cadavre le même soir jusqu'à la mer, là où il y a une langue de rocher, à une centaine de mètres de la digue, côté Berck-sur-Mer. Je l'ai balancé à la flotte, et j'ai attendu qu'il y ait des promeneurs nocturnes. Il y en a toujours qui finissent par passer au loin sous les lampadaires, et ça n'a pas manqué. Dès que mes précieux témoins sont arrivés, j'ai tiré un coup de feu vers le large et je me suis enfui. C'était une nuit sans lune, j'étais complètement invisible. J'ai regagné mon domicile, je suis monté dans la voiture de mon jumeau et j'ai pris possession du taudis qui lui servait de logement pendant quelques semaines. Quand les flics ont découvert le corps entre les rochers, ils n'ont eu aucun doute, ni sur le scénario, ni sur son identité. L'ADN et mon fils ont parlé pour moi. Caleb Traskman était dépressif, il recevait des lettres de menaces anonymes et il s'était suicidé. Point barre. Julie réfléchissait à l'enchaînement qu'il lui faudrait suivre pour ne pas le rater. Le premier coup de tisonnier devait faire mouche. En attendant, Traskman, lui, était happé par son récit, gonflé de fierté. Mais ce n'était que la première phase d'un plan beaucoup plus vaste. Je ne comptais pas mener une vie de misère. Je devais récupérer ce qui m'était dû. Mon argent, mes biens, tout mon héritage. Caleb Traskman était prêt à renaître de ses cendres et à continuer son œuvre. Concentré, il agita les doigts en l'air au-dessus de l'échiquier. Il hésitait. Je crois t'avoir déjà dit que j'avais eu mon fils très jeune, à 17 ans. Et une chance pour moi, il me ressemblait. Sans compter que, avec un peu de chirurgie esthétique et les bons contacts, on peut faire des miracles. Nos caractères étaient assez proches aussi. Il était solitaire, comme moi. Il passait son temps à écrire, comme moi. Pas marié, pas d'enfant. Tu me vois venir.
Tu l'as tué. Tu as tué ton propre enfant.
J'ai fait disparaître le corps, j'ai pris sa place. Et j'ai déménagé pour changer de cercle de connaissances. C'était tellement bien fichu que même le collègue de ton père, un gendarme qui est venu m'interroger il y a environ un an, n'y a vu que du feu. Il enquêtait sur moi. Ils ont su, Julie. Ils ont su que que Caleb Traskman t'avait kidnappé. Ils étaient sur tes traces 12 ans après, tu imagines? Ils n'ont jamais lâché. L'ironie, c'est que, à ce moment-là, toi, tu gambadais dans la nature.
Son père. Julie en eut les larmes aux yeux. Elle avait été libre, mais prisonnière de son subconscient. Elle avait dormi des années sur un matelas, à même le sol, dans les frigos, alors qu'elle aurait pu regagner la chaleur de son foyer. C'était un véritable cauchemar.
Tu te rappelles l'homme au Borsalino, cette fameuse fois où tu aurais dû mourir? Celui qui voulait faire de toi sa joueuse d'échecs en t'écorchant. Il était obsédé par cette idée. Au point qu'il a fini par trouver une autre candidate. Une autre malheureuse victime. Bref, figure-toi que son musée a mystérieusement brûlé, quelques jours après la visite de ce gendarme chez moi. Dmitri était à l'intérieur. Il a été littéralement carbonisé. Et l'endroit où nous nous réunissions occasionnellement, lui, moi et quelques amis en Pologne, avait été fouillé. Étrange coïncidence, non? Il est bien possible que ton père ait cru t'avoir reconnu là-bas, parmi tous les écorchés de son expo, et qu'il se soit vengé. Il déploya son fou. De mon côté, depuis que tu t'es enfui dans la baie, je t'ai traqué sans relâche, continua-t-il. Mais en réalité, tu n'es jamais sorti du labyrinthe puisqu'il a fini par te ramener sur mon chemin. Quelque part, si on est ici aujourd'hui, unis comme au bon vieux temps, c'est un peu grâce à l'imprudence de Meltzer qui a laissé traîner sa bobine. À cet instant, Julie releva les yeux parce qu'elle avait discerné du mouvement au-dessus de l'épaule de Traskman. Sophie se tenait là.
« Qu'est-ce que t'attends pour lui refaire le portrait, bordel ?»
lâcha-t-elle.
« Qu'il crame ce chalet et qu'il vous flambe tous les deux avec ? Je précise que c'est ce qu'il compte faire, si jamais t'as pas encore saisi. »
Traskman attrapa son regard et fut sans doute persuadé qu'il y avait quelqu'un derrière lui, car il se retourna. D'un coup, tout s'accéléra. Julie s'empara du tisonnier, le brandit le plus haut possible pour prendre de l'élan, et frappa une première fois. Traskman tenta de se protéger avec les bras, mais la barre lui explosa la main droite. Il tomba à terre dans un hurlement de douleur, renversant au passage le jeu d'échecs et toutes les pièces. Sans lui offrir l'occasion de réagir, l'instrument vint lui heurter le milieu du dos si fort qu'elle entendit un craquement. Il s'effondra à plat ventre, le menton écrasé sur le plancher. Sa main valide agrippa le pied de la table, les muscles de son avant-bras frissonnèrent. Mais ses doigts se détendirent soudain quand la partie courbée du tisonnier pénétra de plusieurs centimètres dans l'arrière de son crâne. La pluie de coups dura une minute, au moins. Lorsque Julie cessa de crier, essoufflée, elle était à genoux, surplombant le corps martyrisé et méconnaissable de Caleb Traskman. Elle avait la peau arrachée au niveau des paumes, et elle dut se frotter le visage pour y voir quelque chose, tant le sang avait giclé de partout. Elle lâcha subitement son arme, comme si elle lui brûlait la chair. Observa autour d'elle. Sophie avait disparu. Elle se redressa en titubant et dut faire un gros effort pour atteindre sa radio CB maculée, elle aussi, de gouttelettes rougeâtres. Un goût de cuivre lui tapissait le fond de la gorge. Elle décrocha le micro et dut s'y prendre à maintes reprises pour réussir à trouver la fréquence de Christian Nolan.
Ici Julie Moscato, à l'aide, s'il vous plaît, à l'aide.
Au bout de quelques secondes, une voix résonna dans le silence.
Christian Nolan, que se passe-t-il? Qui êtes-vous?
Je suis l'habitante de l'ancien abri de chasse situé à une demi-heure de marche, au nord-ouest du hameau. Vous devez venir. J'ai tué un homme.